Menace sur l'instruction en famille, une émission réalisée le 21 décembre 2020 avec des parents membres de l'association Libres Enfants du Tarn.
On aime l'école à la maison parce qu'on trouve que c'est bien pour les enfants.
Bien sûr, il y a un problème et bien sûr, il ne s'agit pas d'empêcher l'instruction en famille des familles qui le font bien. C'est pourquoi c'est un texte d'équilibre, comme je le disais la semaine dernière, un texte qui prévoit des exceptions, notamment pour les pratiques sportives et artistiques intensives, pour les projets pédagogiques particuliers, mais nous passons surtout à un système qui était un système de vérification a posteriori, parfois d'ailleurs pas toujours fait de manière uniforme, à un système d'autorisation préalable, ce qui permettra d'être certain que les enfants ne seront pas dans des structures intégristes, dans des structures qui non seulement sont dangereuses pour la République, mais dangereuses pour les droits de l'enfant.
Le 2 octobre 2020, lors d'un discours qu'il prononce au Mureau dans le département des Yvelines, Emmanuel Macron annonce ce qui va bientôt devenir le projet de loi contre les séparatismes. Présenté en Conseil des ministres le 9 décembre 2020, ce texte, rebaptisé « Projet de loi confortant le respect des principes de la République », fait désormais l'objet d'un examen en procédure accélérée. Inscrit dans la lutte à mener contre le terrorisme, lutte avivée par l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, ce texte brasse une importante matière et touche à de nombreux domaines. L'article 21, présenté et défendu par Jean-Michel Blanquer, concerne ainsi l'instruction en famille, posant le principe non plus de l'instruction obligatoire, mais de la scolarisation obligatoire. Mettre ses enfants à l'école deviendrait la règle, l'instruction en famille l'exception qu'il faudra justifier. Coup dur pour celles et ceux parents et enfants qui pratiquent l'instruction en famille et qui voient ce projet de loi comme une atteinte à une liberté fondamentale. Alors, interdire l'instruction en famille, du moins restreindre drastiquement la possibilité pour lutter contre le terrorisme, le raisonnement se tient-il? Peut-on draper cette interdiction de la volonté de protéger les droits des enfants? On donne la parole à des parents directement concernés par ce projet de loi. Rencontre avec Alice, Betty, Florian et Laurence, membres de l'association Libres Enfants du Tarn, parents qui pratiquent l'instruction en famille. Première partie, le cadre existant et ce que ferait changer le projet de loi.
Alors moi je suis Florian, donc je suis membre fondateur de l'association Libres Enfants du Tarn, créée en 2014. Je suis également père de 3 enfants. J'ai ma grande qui est maintenant à l'école sur sa demande. Et j'ai mes 2 garçons qui sont à la maison.
Alors moi je suis Laurence, je suis la compagne de Florian, donc même chose, je suis aussi impliquée dans l'association Libres Enfants du Tarn. Et donc effectivement on a notre grande qui est rentrée à l'école là, cette année, alors qu'elle n'était jamais allée avant. Elle est en CE2, à l'école publique de secteur.
Et c'est sa nouvelle passion, l'école.
Oui.
Moi, je suis Betty, donc je suis aussi impliquée dans l'association Libres Enfants du Tarn. Je suis maman de 2 enfants, de 6 pour ma grande et 2 ans mon fils. Donc ma grande fille est en instruction en famille également.
Moi, je suis Alice, je suis adhérente à l'association Libres Enfants du Tarn et maman d'un petit garçon de 3 ans et demi.
On peut présenter un peu l'association Libres Enfants du Tarn, puisque vous en êtes tous et toutes membres, dire un peu ce qu'elle fait.
Alors, l'association a été créée en 2014 par moi et Laurence pour répondre au départ à une volonté de s'exprimer sur des sujets liés à une parentalité qui était un peu marginale. À savoir l'accouchement respecté, l'allaitement long, tout ce qui concerne en fait le maternage, on va dire. Puis peu à peu, disons que si l'idée de départ c'était de rompre l'isolement des parents et de se rencontrer sur ces sujets-là et de créer des temps entre parents et enfants. Voilà. Donc on faisait une pierre deux coups, on échangeait sur des sujets entre parents, puis les enfants se faisaient des copains. Voilà. Et finalement, alors progressivement, l'association s'est beaucoup tournée vers l'instruction en famille, du fait que c'est Laurence et moi-même qui l'avons porté pendant de nombreuses années sur nos épaules. Aujourd'hui, l'association compte quand même 8 membres actifs au sein du conseil d'administration. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si Laurence, tu as quelque chose à dire.
Qu'au quotidien, les actions portées par l'asso, c'est principalement des rencontres entre parents, avec les enfants, des ateliers, des activités. Voilà, à droite, à gauche, on n'a pas de locaux associatifs et donc on est un petit peu partout dans le Tarn. Voilà, on fait des randonnées. Donc voilà.
Et du coup, c'est aussi l'association qui, dans le Tarn, porte un peu l'opposition à la loi séparatisme, on va l'appeler comme ça, même si elle a changé de nom.
Disons que nous, à l'annonce de Macron le 2 octobre dernier, on a tout de suite été mobilisés. On compte à peu près 100 familles qui sont en contact avec l'asso, qui sont dans le Tarn et qui instruisent hors école. Et donc on a tout de suite informé et on en a discuté entre nous et on a voulu s'associer au mouvement qui s'est mis en place au niveau national en fait, parce qu'il y a d'autres associations nationales qui s'occupent de l'instruction en famille et des droits des parents. Donc oui, on a tout de suite réagi et on a tout de suite souhaité participer. On a mis en place un groupe de travail alors sur Discord, puisqu'il y a eu rapidement le deuxième confinement et donc on a été obligé de travailler comme ça. Et voilà, oui, on s'est lancé à ce moment-là.
Peut-être qu'on peut justement alors préciser cette loi, notamment donc son article 21, puisque c'est celui qui concerne l'instruction en famille, dans cette loi qui brasse beaucoup de sujets et de matières. Dire un peu, parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, quel est l'état actuel de la loi, ce qui est permis, puis ce que risque de changer cette loi, si elle passe.
Alors, à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, on a le droit de choisir l'instruction que l'on souhaite pour nos enfants. École ou instruction en famille. Et on déclare, en fait, lorsqu'on choisit l'instruction en famille, on doit faire une déclaration pour que notre enfant soit déclaré en instruction en famille. Suite à cette déclaration, on a deux en fait, rendez-vous. Un rendez-vous tous les 2 ans avec la mairie, qui doit faire un petit peu comme une enquête pour voir pourquoi on veut faire l'instruction en famille et si pense en fait que l'enfant est épanoui, en fait, si ça se passe bien. Et ensuite, tous les ans, on a une inspection pour vérifier, entre guillemets, le niveau de l'enfant, s'il y a en effet une instruction qui est donnée à la maison. Voilà, donc aujourd'hui, ça se passe comme ça. La loi, ce qu'elle va changer, c'est que ce ne sera plus une déclaration, mais en fait, on demandera l'autorisation de faire l'instruction en famille. Donc du coup, on peut très bien nous dire, oui ou non. Sans raison, on n'a plus le droit de faire l'instruction en famille comme on le fait aujourd'hui.
Oui, du coup, ça, c'est plus vraiment une liberté, c'est interdit de fait, et il y aura quelques exceptions, quelques dérogations possibles en fait. Et nous, on a été très surpris de cette annonce, parce qu'il y a déjà eu un renforcement législatif ces dernières années, visant l'instruction en famille, déjà avec la loi pour l'école de la confiance. Du coup, on a dû déclarer nos enfants dès l'âge de 3 ans, alors qu'avant, les contrôles se pratiquaient à partir de 6 ans. C'est d'ailleurs pour ça que les chiffres ont gonflé depuis quelques années. Et donc, il y a aussi eu la possibilité qui est accordée aux inspecteurs de l'éducation nationale de pratiquer les contrôles de manière inopinée, donc de débarquer à l'improviste chez les familles pour pratiquer ce contrôle pédagogique.
Ça, c'est dans la loi
C'est dans la loi actuelle. Voilà. Donc déjà actuellement, donc en plus de tous les contrôles que vous a mentionné Betty, et qui sont tous faits par des agents de l'État, en fait, maires, assistantes sociales, enseignants ou inspecteurs,
qui eux-mêmes peuvent faire appel en cas de suspicion de radicalisation. Ils peuvent faire appel aux cellules de prévention de la radicalisation qui se sont mises en place récemment. Et en plus, donc, ils peuvent tous aussi pratiquer un signalement au procureur de la République en cas de suspicion de maltraitance ou quoi que ce soit. Donc on estime qu'on est déjà largement assez contrôlé.
Après, on est surpris, mais... Enfin, nous, on est surpris à moitié. Certes, on ne s'attendait pas à une interdiction pure et simple, même si on pressentait quand même depuis quelques années qu'on allait vers ça. Il faut savoir que depuis 1998, l'instruction en famille est de plus en plus contrôlée et de plus en plus réduite. Il faut savoir qu'avant 1998, n'importe qui pouvait faire ce qu'il voulait. Il y avait quasiment pas de contrôle. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers une répression des familles qui instruisent hors de l'école. Et donc, moi, à titre personnel, je suis surpris à moitié. Même si on ne s'attendait pas à ce que ça tombe en 2020, et ça, c'est une tendance. C'est évident que ça allait arriver un jour ou l'autre, et dans un avenir assez proche. Même si, avec le renforcement législatif, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide. Alors voilà, il y a quand même...
Ouais, on a quand même eu Jean-Michel Blanquer qui a été auditionné en juin dernier par le Sénat et qui a déclaré qu'on avait atteint un bon équilibre juridique sur le point de vue des contrôles de l'instruction en famille. Donc on s'attendait quand même pas à cette interdiction.
Menace sur l'instruction en famille, une émission en deux parties réalisée le 21 décembre 2020 avec des parents membres de l'association Libres Enfants du Tarn. Première partie, le cadre existant et ce que ferait changer le projet de loi.
Et alors Florian, tu emploies le terme de répression ? Des familles et des parents qui instruisent leurs enfants à la maison. Est-ce qu'on peut évoquer un peu comment se passent les contrôles et pourquoi toi tu as le sentiment qu'il s'agit d'une répression
Déjà, par définition, le contrôle c'est quand même quelque chose de négatif. Il faut savoir que nous on subit un contrôle, c'est quand même une sorte d'intrusion dans notre intimité. Enfin, moi je le vois comme ça, avec Laurence on est quand même assez d'accord. C'est une intrusion dans notre intimité, puis c'est quelque chose qui colle pas. Enfin, faut savoir comment ça se passe. C'est en fait des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent un jour J dans l'année pour vérifier que l'enfant est instruit conformément à la loi. En fait, il faut savoir que le décret qui régit ce qui est attendu par cette loi est très flou. Et à partir de là, on peut y avoir de l'arbitraire de la part de l'inspecteur. Et nous, on a déjà eu des retours négatifs d'une circonscription à l'autre du Tarn. C'est pas le même travail qui est fait. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes inspecteurs, donc c'est pas la même interprétation de la loi. Il y en a qui sont plus coulants, il y en a qui sont plus sévères. Et voilà, c'est déjà un problème. Nous, on a déjà l'impression de subir de plus en plus les choses. Et voilà, en quoi c'est une répression ? C'est pas une partie de plaisir que subir un contrôle de la part de l'inspection d'académie, à savoir donc de l'éducation nationale qui forcément part avec un a priori négatif sur une pratique qui juge comme en fait concurrente à l'école publique. Et voilà.
Oui, disons bon nombre d'inspecteurs en fait, ils ont pourtant un devoir de neutralité. Mais clairement, ils sont jugés partis dans l'affaire. Donc, ils sont là pour venir évaluer l'instruction des familles. Le terme, normalement, c'est vérifier. Hein. Ils sont là pour vérifier qu'il y a une progression de l'instruction. Et en fait, bon nombre exigent des résultats, qui d'ailleurs ne sont pas exigés à l'école, en fait. Ils exigent un niveau d'excellence des enfants, ils se montrent incapables de s'adapter aux pédagogies qui sont mises en place par les familles, ils connaissent uniquement les programmes de l'éducation nationale et beaucoup ne sont pas très souples vis-à-vis des pédagogies alternatives en fait.
Comment vous le présentez aux enfants ça quand il y a un contrôle, parce que j'imagine que l'enfant est au centre, on lui fait passer des tests. Comment vous présentez ça en tant que parent ?
Alors moi, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi cette année puisqu'on a reçu notre convocation pour notre contrôle le mois prochain. Et ma fille, c'est quelque chose dont elle me parle parce que ça la stresse. Elle a peur qu'on lui dise que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Voilà, ce sont ses mots. Du coup, je me suis dit, plutôt que de lui présenter comme un contrôle, je vais lui proposer d'aller montrer ce qu'elle fait, en fait. Ce qu'elle aime faire et les types d'activités qu'elle fait à la maison, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on sort beaucoup quand on est en instruction en famille. Pour essayer plutôt de lui dire, ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'on fait, mais ça les intéresse de savoir ce que tu fais, toi. Pour qu'elle ait moins le stress de se dire, je vais être contrôlée.
Moi, ça va être son premier contrôle, puisqu'il a 3 ans et demi. Et je pense que je vais lui présenter comme un jeu aussi, puisque moi, il n'est pas stressé, en fait, pour l'instant. Le terme de contrôle, ça lui passe un peu au-dessus, puisque, d'ailleurs, il n'a pas d'évaluation. Donc, pour lui, voilà, tout est du jeu. Et je pense que je vais lui expliquer qu'on va avoir des gens pour leur montrer à quoi on joue. Ouais.
Concrètement, moi, ce qui me choque, c'est que dans ton cas, par exemple, on va évaluer un enfant qui a quand même 3 ans. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut exiger d'un enfant de 3 ans Pour certains, ils ne sont même pas propres. Et pour certains, ils parlent basiquement. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Hein. C'est incroyable. Et j'aimerais aussi dire que ça va de pair avec le renforcement des contrôles, mais en règle générale, parce que l'école maternelle là, va quand même prendre cher là, bientôt, avec des exigences qui vont être demandées à des enfants de 3 ans. Enfin, pour moi, c'est vraiment on marche sur la tête, quoi. Et on parle de cette loi de 2020, mais déjà on avait été abasourdis quand il y a eu l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, qui était quand même quelque chose de très violent, puisqu'on allait contrôler des enfants qui, pour certains, sont encore allaités. Enfin, c'est peut-être choquant de dire ça, mais enfin, c'est des enfants quoi, qui n'ont rien à voir encore avec des notions d'apprentissage, des notions de pédagogie. Ils sont dans le jeu, quoi. Leur univers, c'est de savoir s'ils vont finir leur construction de Lego. Quoi. Pas de savoir si... Bon, voilà,
En plus, cette année, avec le Covid, les contrôles ne peuvent pas se faire à domicile. En tout cas, nous, les convocations qu'on a reçues sont dans les locaux de la DASEN, en fait. Donc ça veut dire que moi, je vais me retrouver seule avec mon enfant de 3 ans, entourée d'inspecteurs dans des locaux qu'il ne connaît même pas. Et donc, s'il n'est pas capable de compter correctement jusqu'à 5, par exemple, chose qu'il sait faire aujourd'hui dans le cadre de la maison parce qu'il le voit comme un jeu, je pense qu'il serait tout à fait capable de déduire que mon fils ne sait pas compter sans prendre en compte l'environnement. Donc voilà, il y a ça à rajouter. En plus, des contrôles qui sont intrusifs, impressionnants pour les enfants, stressants pour nous aussi. Je dirais un manque d'adaptation, en fait, parce que c'est possible d'aller dans des familles en mettant des masques. Personnellement, je pense que c'est un manque de bonne volonté, tout simplement.
Oui, puis enfin, surtout, c'est un manque de psychologie de leur part. Je veux dire, faut s'imaginer ce que doit ressentir. À aucun moment, je pense qu'ils se demandent ce que ressent un enfant de 3 ans dans un environnement qu'il ne connaît pas, face à des gens qui exigent quelque chose de lui. Il le sent. Il y a un manque de considération de l'enfant qui est propre pour moi à une bonne partie de l'éducation nationale, qui s'assoit sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, c'est le cadet de leurs soucis, c'est ce qu'ils veulent. Faire leur travail de fonctionnaire assez froidement. Enfin, voilà, bon, c'est...
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie, que les dimanches, les samedis, de nous laisser dans la vie, que les dimanches, les samedis, c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce cirque fait par le bref nous donne beaucoup d'ennui. Contre lui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui
folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Parti s'est passé, 4 et 4 pour 8, leçon de français, de mathématiques, que de travail, travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie, au lieu de nous ennuyer avec sa géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe à ces 4 et 4 en 8, leçon de français, de mathématiques, que de travail, travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne.
Merci à Obdurate pour cette reprise musclée de Sacré Charlemagne. On retourne auprès d'Alice, Betty, Florian et Laurence, parents membres de l'association Libres Enfants du Tarn, pour évoquer les menaces qui pèsent sur l'instruction en famille à travers l'article 21 du projet de loi contre les séparatismes. Une émission en deux volets enregistrée le 21 décembre 2020. C'est la première partie.
Moi, je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment étrange dans leur modalité d'autorisation, en fait, puisqu'on doit présenter un projet pédagogique, par exemple, mais que nos méthodes d'apprentissage, tout ce qui est pédagogie alternative, Montessori et tout ça, sont déjà très mal connues par les inspecteurs. Donc comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à présenter un projet pédagogique avec des pédagogies alternatives qui seraient acceptées? Ça, on s'attend un peu en fait à ce qu'ils acceptent que les enfants qui sont instruits en famille et qui suivent le programme de l'éducation nationale. Donc c'est quand même une façon d'uniformiser encore plus l'éducation de tous les jeunes enfants en agitant l'épouvantail du terrorisme, parce que c'est quand même un mot qui fait peur et qui permet d'utiliser la peur des gens et de passer plus vite les lois.
Et finalement, t'as l'impression qu'il y a une tolérance plus grande à l'égard des parents qui utilisent le CNED, par exemple?
Alors, je sais pas, puisque moi je n'utilise pas le CNED, mais ce que je sais, c'est que par contre, voilà, les pédagogies alternatives sont mal considérées, puisque c'est pas non plus que l'instruction en famille, mais aussi les écoles hors contrat, type école Montessori, qui peuvent être visées. Et donc, certains d'entre nous qui faisons ça en grande partie pour avoir justement des méthodes éducatives, pédagogiques différentes, on va se retrouver face à des gens qui sont pas formés pour évaluer ce type de méthode et qui ne les encouragent absolument pas, en fait. Bon, voilà, c'est tout ce système d'autorisation, il n'est pas viable, les modalités ne sont pas claires et elles correspondent absolument pas au cas par cas qui est l'instruction en famille.
Est-ce que vous avez l'impression que l'une des motivations de cette loi, ça peut être justement les moyens que demandent ces contrôles annuels? Parce que j'imagine qu'il faut quand même mobiliser pas mal de personnel, et que est-ce que ça peut être une explication de cette interdiction qu'on fait peser sur les familles qui font le choix que vous avez fait?
Bah, c'est pas la raison officielle, on va dire, puisqu'en fait, le projet de loi vise les séparatismes. Mais il est possible, oui, que face à l'augmentation du nombre d'enfants instruits hors école, l'éducation nationale commence à voir qu'ils n'ont plus les moyens de mettre en place tous les contrôles, en fait. Ils font passer 70%, ils contrôlent 70% des familles pour le moment. Et donc leur objectif serait d'aller à 100%, mais... C'est difficile à dire, en fait, parce que là, c'est vrai qu'il y a eu des déscolarisations à cause du Covid, mais bon, c'est très ponctuel. On imagine que ça ne va pas durer, ça ne va pas s'installer. Il y a eu une augmentation, enfin un gonflement des chiffres du fait de l'école, de la loi L'école pour la confiance, puisque du coup, il y a les 3-6 ans qui doivent être inspectés aussi. Je ne sais pas, on ne peut pas vous dire si... Ouais. Après, s'il n'y a plus de moyens pour contrôler.
Concernant les moyens, il y a aussi des académies qui font passer des contrôles collectifs, ce qui est totalement une aberration aussi. Et ça, ils le font parce qu'il y a un manque de personnel et la tendance ne va pas être au recrutement de fonctionnaires. Je pense qu'on est plus dans une tendance inverse. Et peut-être que ça c'est, peut être une des raisons qui n'est pas invoquée, mais... Qui explique pourquoi ils veulent empêcher ça, empêcher l'instruction
oui,
en famille.
En même temps, là par exemple, on a vu dans le Tarn, comme il y a les premières, on est en décembre, là il y a les premières convocations qui ont été lancées pour janvier, février, donc il y a beaucoup de familles qui en discutent voilà, autour de nous. Et il y a plusieurs familles qui sont surprises du nombre de personnes annoncées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un inspecteur, il y a un conseiller pédagogique, voire deux, voire trois même, pour une fratrie de deux. Je crois qu'il y a un exemple avec une fratrie de deux enfants et il y a quatre adultes qui viennent sur place contrôler. Donc à chaque fois, il y a quand même pas mal de monde lors des inspections. Il y a aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a des contrôles abusifs qui s'étalent dans le temps, qui durent très longtemps en fait. Il y a des inspecteurs qui vont s'acharner sur un enfant pendant une heure et demie, deux heures, à lui faire passer des exercices, quel que soit son âge en fait. Hein. Donc,
Oui, parce que la loi, en fait, ne précise pas quelle est la durée du contrôle. Elle précise juste, pour le contrôle d'un enfant, qu'il va y avoir des exercices qui peuvent être écrits ou oraux. Donc là, déjà, à partir du moment où on écrit quelque chose d'aussi flou, ça laisse le champ à toutes les interprétations possibles. Donc les inspecteurs qui n'ont pas envie de s'emmerder, qu'est-ce qu'ils font ? Moi, j'ai été témoin de plusieurs contrôles. Eh bien, il y a madame qui arrive et qui fait une heure de maths, et monsieur fait une heure de français. J'ai vu ça sur un enfant de 7 ans. On manque de bol, l'enfant était très enthousiaste, donc il a même redemandé du rab. Mais je veux dire, il faut imaginer un enfant de 7 ans qui fait 2 heures d'exercice. C'est quand même quelque chose. Et puis oui, ça mobilise énormément de personnel. C'est au moins 3 personnes, 2 à 3 personnes par famille, multiplié par le nombre de familles. Si les effectifs continuent à croître, c'est pas tenable. Ils n'ont pas assez de personnel... Donc on ne peut pas savoir si c'est une des raisons, mais on peut supposer que oui, ça doit jouer dans la balance pour l'interdiction de l'instruction en famille.
Après, on ne sait pas, parce que donc rescolariser tous les enfants, ça a un coût aussi, au final. Et donc je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais peut-être qu'embaucher d'autres personnels pour contrôler les enfants en instruction en famille... Ça pourrait se faire, voilà, oui, peut-être ce serait moins onéreux de faire ça plutôt que de scolariser 20-30 000 enfants.
Certains ont calculé, à partir de l'étude d'impact, que la mesure d'interdiction de l'instruction en famille aurait un coût compris entre 80 et 300 millions d'euros. Alors, c'est assez flou parce qu'il faut additionner des chiffres éparpillés dans différentes sections de l'article 21. Je ne sais pas si l'État peut se permettre de dépenser une telle somme au nom de la lutte contre le terrorisme.
Et vous le vivez comment justement que cette mesure, elle rentre dans le cadre d'une loi contre les séparatismes et effectivement, clairement, contre le terrorisme ?
On a été abasourdis au début. Dans l'association, on a réalisé un sondage du coup, en novembre, là. Et il se trouve qu'il y a, il y a 82 familles qui ont répondu, ce qui représente 145 enfants. Et selon les chiffres qu'on n'a pas, du coup, on serait 200 familles en tout dans le Tarn à ne pas scolariser. Et donc, sur les 82 foyers qui ont répondu, y en a 0% qui ont mis en avant la raison religieuse, en fait. C'est pas du tout le motif principal. Et même au niveau national, les chiffres dont on dispose, il y aurait 1,4% des familles qui déclareraient le faire pour raison religieuse. Donc, à partir de là, peut-être dans ces 1,4%, il y a des personnes qui seraient radicalisées. On n'en sait rien. C'est pas du tout une réalité, en tout cas, dans l'association, dans le Tarn. Il y a des familles musulmanes qui, évidemment, le vivent très mal, se sentent vraiment prises à partie et amalgamées, en fait. Hein. C'est le terme. Et donc, oui, on a l'impression que c'est complètement déconnecté. Les associations nationales n'ont eu de cesse depuis octobre d'essayer de demander, d'exiger les chiffres, en fait, qui permettraient un lien entre la radicalisation religieuse et l'instruction en famille. Et on l'a vu dans les médias, les représentants du gouvernement parlent d'écoles clandestines démantelées, parlent d'enfants qui seraient dans des caves, vraiment... Il y a des images caricaturales qui circulent, d'enfants fantômes aussi, hors radar. Alors d'une part, les enfants hors radar, il y en a peut-être, mais ce ne sont pas les familles qui déclarent, justement. Elles sont bien dans les radars de la République, celles-là, vu tous les contrôles qu'on a évoqués. Et puis, pour le cas des écoles démantelées, est-ce que, justement, les familles déclaraient en instruction en famille ? On ne le sait pas non plus. On ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est vraiment une minorité. Il y a quelques études universitaires dessus, puisqu'il y a Philippe Bongrand, de l'université de Cergy-Pontoise, qui travaille sur l'instruction en famille depuis plusieurs années, en France. En fait, il y a d'autres données, mais dans d'autres pays. Et en France, il y a très peu de chiffres. Et alors, il a dit plusieurs choses. D'une part, qu'il était très difficile à son équipe de chercheurs d'avoir accès aux données statistiques de l'éducation nationale. Ils ont ressenti une sorte de réticence institutionnelle à divulguer leurs chiffres, qui sont pourtant des données publiques et qui existent. Ils les compilent, donc ils les ont. Donc, ils ont mis des mois à avoir ces documents. Ils ont aussi, ils se sont rendus compte que s'il y avait des cas de radicalisation, c'était vraiment une extrême minorité, que dans la grande majorité des cas, ce sont des familles banales, vraiment, ni anarchistes, ni séparatistes, ou radicalisées. Et même 50% des cas, ce sont des déscolarisations ponctuelles, donc un an ou moins. Donc, des enfants qui sont en grande souffrance à l'école, les parents qui cherchent à répondre à leurs besoins, à suivre leur rythme et qui du coup choisissent l'instruction en famille.
Il s'agit en l'occurrence non seulement de défendre la République au travers d'un tel dispositif, mais de défendre les droits de l'enfant. Les deux choses vont ensemble.
Jean-Michel Blanquer.
Un enfant qui, à 3 ou 4 ans, ou même ultérieurement, est mis dans une situation d'endoctrinement.
9 décembre 2020.
Est mis dans une situation inacceptable, par la même occasion, du point de vue de la défense de ses droits. C'est donc une disposition de défense des droits de l'enfant. Les exceptions prévues sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap. Mais comme vous le savez, nous avons aussi une politique d'école inclusive pour que justement les élèves en situation de handicap aillent à l'école. Il doit donc y avoir une raison justifiée. Deuxièmement, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives qui justifie un régime particulier. Troisièmement, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire. Enfin, en quatrième lieu, l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assumer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc c'est ce respect de l'intérêt supérieur de l'enfant qui sera contrôlé par les rectorats de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive en la matière.
Menace sur l'instruction en famille, une émission en deux parties réalisée le 21 décembre 2020 avec des parents membres de l'association Libres Enfants du Tarn. Première partie, le cadre existant et ce que ferait changer le projet de loi.
Alors, le projet de loi qui est écrit actuellement, il est assez flou en fait. Les termes ne sont pas réellement posés sur dans quelles conditions on aura le droit de continuer l'instruction en famille, hormis, alors il parle d'enfants qui ont des phobies scolaires, qui seraient pris en compte, d'enfants porteurs d'handicap.
Handicap, itinérance, sport, études ou pratiques artistiques à haut niveau.
Voilà.
Et la quatrième exception qui a été rajoutée sur proposition du Conseil d'État, qui donc sinon ne validait pas l'article et le trouvait inconstitutionnel, c'est une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les parents soient en mesure d'assurer l'instruction. Donc une situation particulière, c'est on ne peut plus flou. Voilà.
Oui,
et après, dans les discours, il y a Jean-Michel Blanquer qui a parlé de projets pédagogiques, de phobie scolaire, etc. Mais pour le moment, dans le texte, ça n'apparaît pas du tout.
Ça n'apparaît pas. Et sur quelle base est-ce qu'ils vont pouvoir déclarer que tel parent est capable d'instruire son enfant en famille? Est-ce que maintenant, il va falloir qu'on passe un diplôme pour instruire à son enfant? Est-ce qu'il va falloir être prof pour instruire à son enfant? Pour moi, le but, c'est d'interdire l'instruction en famille, et ils trouvent des moyens de le faire sous couvert de « on vous laisse quand même certaines libertés ».
Dans tous les cas, quand vous allez demander l'autorisation, parce que maintenant, si la loi passe, c'est ce qu'il faudra faire, vous allez devoir justifier les raisons pour lesquelles vous pratiquez cette instruction en famille.
Mais on le fait déjà, en fait. Avec l'enquête de la mairie, on le fait déjà. On doit dire les raisons pour lesquelles on fait.
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a en fait une autorisation a posteriori, en fait, c'est-à-dire après déclaration, avec un avis favorable, avis défavorable qui est donné, parce qu'on a beaucoup parlé des contrôles tout à l'heure, mais du coup, on n'a pas parlé de l'enjeu de ces contrôles, c'est-à-dire que si ces contrôles sont jugés non satisfaisants par l'autorité administrative, du coup, c'est la rescolarisation, mise en demeure de rescolariser sous 15 jours. Donc il y a un vrai enjeu en fait à tout ça.
Et une rescolarisation qui est valable 2 ans, c'est le petit bonus.
Voilà.
Si on se fait avoir en 2020, c'est valable jusqu'en 2022. Après, pour revenir au régime d'autorisation, le problème, c'est quel va être le délai de réponse. Connaissant l'administration française, à mon avis, ils vont pas répondre sous 15 jours, sachant qu'il y a un manque de personnel criant dans les académies. On voit qu'ils n'arrivent pas à contrôler tout le monde déjà. Comment ils vont faire? Imaginons qu'ils croulent sous les demandes, parce que le phénomène ne va faire que s'amplifier. Je vois pas. C'est pas cette loi qui va enrayer le phénomène, c'est pas possible. Les gens sont viscéralement attachés au bien-être de leur enfant et vont trouver des moyens pour continuer à poursuivre ce qu'ils faisaient avant. Enfin, je veux dire, les gens vont pas se dire « Ah, il y a la loi, on va rescolariser ». C'est certainement pas l'écho qu'on a, nous, en tout cas, dans le Tarn. Donc voilà, avec ce régime d'autorisation, il va y avoir le problème du délai, puis il va y avoir le problème de l'arbitraire. Parce que on va quand même, si on prend les choses concrètement, c'est quand même un fonctionnaire qui va devoir lire une feuille sur laquelle va être inscrit les motifs. Et il va devoir juger, lui, à partir d'une grille qui va être floue, on le sait,
le bien fondé
de la demande. Et à l'heure actuelle, le vrai problème de ce régime d'autorisation, c'est quels vont être les critères d'autorisation. L'instruction en famille, le problème, c'est que c'est une pratique. Il y a autant de raisons de faire l'instruction en famille qu'il y a d'enfants, presque. J'ai envie de dire, les raisons sont propres à chaque enfant, à chaque famille, certes, mais surtout à chaque enfant. Ils vont pas mettre en critère consentement de l'enfant respecté. Il y a, à mon avis, un vrai problème d'écriture de la loi là, qui va se poser, à mon avis. Donc voilà, pour nous, pour revenir à ta question initiale sur est-ce que le gouvernement recule, il ne recule pas, en fait, il change les mots, c'est tout. Au lieu qu'il y ait une interdiction stricto sensu, il y a une interdiction déguisée qui est l'autorisation, où on se réserve le droit en fait, d'interdire selon le bon vouloir de l'administration. Pour nous, ce n'est pas du tout un recul. Le recul, ce serait le retrait pur récent de l'article 21.
Voilà, oui, pour qu'on soit bien clair là-dessus, la position interassociative, donc de toutes les associations nationales et les collectifs locaux, etc., c'est de ne pas entrer dans la négociation à base d'amendements pour rajouter des exceptions, c'est d'être solidaire entre nous et de demander, d'exiger le retrait de cet article, puisque une liberté ne peut pas être soumise à autorisation.
C'est la fin de la première partie de cette émission consacrée aux menaces qui pèsent sur l'instruction en famille. Merci à Alice, Betty, Florian et Laurence de l'association Libres Enfants du Tarn. On les retrouve prochainement pour la seconde partie de cette émission autour de la mobilisation mise en place, des soutiens et des attaques que reçoivent les parents qui ont fait le choix de cette instruction en famille. À bientôt.